Bonjour et bienvenue à tous dans notre nouveau rendez-vous mensuel Mon Beau Quartier. Je suis Benjamin Lecousin et je vous accompagnerai tout au long de ces émissions et tout au long de l'année pour ce rendez-vous Mon Beau Quartier. Mon Beau Quartier, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission en partenariat avec l'association L'École et Nous à Bellefontaine qui, suite à un débat organisé dans le cadre du grand débat national, les habitants admettaient qu'il y avait un manque d'attractivité dans leur quartier. Aussi, ils reconnaissaient qu'ils n'étaient pas très entendus. Donc, on leur a donné la chance de pouvoir s'exprimer, d'avoir une émission de radio pour valoriser le quartier de Bellefontaine. Au cours de ces émissions, ils pourront débattre entre eux sur des sujets de société, montrer que leur avis est pris en compte. Cet espace leur permettra aussi de promouvoir des actions ou des activités culturelles qui leur tiennent à cœur. Et pendant le débat, ils ont aussi pointé qu'il y avait une frontière entre la rive gauche et la rive droite. Le but de cette émission, c'est de permettre aux habitants de la rive droite de venir en périphérie pour découvrir une nouvelle palette culturelle. Aujourd'hui, c'est donc la première émission et nous recevons les membres de l'association L'École et Nous avec Malika Badoud, Soraya Amalou et Soraya Korish. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Donc pour commencer, on va un peu expliquer votre rôle au sein de l'association. On va commencer par vous, Malika. Donc, quel est votre rôle dans l'association ?
Moi, je suis la directrice de l'association. L'École et Nous est une association de parents d'élèves qui existe sur le territoire du Mirail. C'est une association qui est autonome. Une association qui ne dépend d'aucune fédération, ni parti, ni autre chose. On est une association qui vraiment veut œuvrer auprès des publics, auprès des publics, et puis répondre vraiment à leurs attentes en fonction de leurs demandes.
D'accord, très bien. À vos côtés, il y a Soraya. Alors, votre rôle dans l'association ?
Je suis la trésorière de l'association.
D'accord. Et à côté, Soraya. C'est un peu les mêmes prénoms. Soraya, quel est votre rôle au sein de l'École et Nous ?
Je suis la médiatrice sociale, donc j'accueille le public.
D'accord, très bien. Donc, on va commencer par une première question. Déjà, est-ce que vous êtes du quartier toutes les trois de Bellefontaine ?
Alors moi, en ce qui me concerne, je suis native effectivement du quartier, même si j'y habite plus. C'est un quartier qui est extrêmement attachant. J'ai toujours souhaité travailler auprès des publics. Donc j'ai quitté mon emploi il y a une vingtaine d'années pour pouvoir me professionnaliser et rester au sein de l'association, puisqu'on est une association de parents d'élèves, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et on fait beaucoup de médiation sociale et scolaire.
D'accord.
Oui.
Et Soraya, vous êtes du quartier ?
Non, pas du tout. Je viens de Cugnot.
D'accord. Donc, en quelle année, d'ailleurs, cette association a été créée ? Depuis combien de temps elle se trouve dans le quartier de Bellefontaine ?
Alors, elle est implantée sur le quartier depuis près de 20 ans. On existe officiellement depuis mars 2003, puisqu'on œuvrait en tant que parents d'élèves un petit peu autonomes, des yeux libres, parce que c'est un quartier qui est extrêmement condensé avec des groupes scolaires très importants, hein, puisqu'on a quand même 6 écoles maternelles, 3 écoles élémentaires doubles, un collège sur un même micro-territoire. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'enfants et beaucoup de public, beaucoup de parents d'élèves. Et donc voilà, ça fait près de 20 ans qu'on œuvre sur le territoire. Et on est au cœur du quartier. Hein.
Et pourquoi cette association donc a-t-elle été créée ? Dans quel but ? Quelles ont été les bases de la création de l'École et Nous ?
Alors c'est très simple. J'étais moi-même parent d'élève, hein, puisque mes enfants étaient scolarisés là, avec un groupe d'autres parents d'élèves. Et on faisait en sorte que nos enfants puissent recevoir le contenu pédagogique auquel ils ont droit, mais dans de bonnes conditions, des conditions qu'on a dans n'importe quel autre quartier. C'était pas toujours le cas, parce qu'on n'était pas toujours entendu, hein, vu que les fédérations de parents d'élèves n'étaient pas présentes sur le territoire. Donc on s'est beaucoup battu, hein, faut dire ce qui est, pour avoir des moyens, pour que les enfants soient accueillis dans de bonnes conditions. Et puis un jour, on s'est dit, on va se créer une association parce que on aura plus de poids, on se fera plus entendre en étant une association. Et c'est comme ça que l'association est née, en fait, hein, par ce groupe de parents. On était une trentaine de parents, hein, on était quand même assez nombreux. Et donc, l'association a existé. Et puis, quelques années après, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui puisse être salarié parce qu'une association ne peut pas fonctionner qu'avec des bénévoles. C'est difficile, surtout sur un territoire comme celui-là. Et donc, on m'a proposé un poste adulte relais à cette époque-là. Et j'ai pris ce poste pour pouvoir... j'ai quitté mon emploi pour pouvoir...
Okay. Vous faisiez quoi avant d'être à l'École et Nous ?
Alors, moi, j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai été professeur d'anglais.
Ouais, anglais.
Et puis après, j'ai travaillé dans l'insertion professionnelle des jeunes quand j'ai quitté mon emploi pour pouvoir... c'est un peu notre petit bébé, cette association. Et voilà. Et elle répond vraiment à l'attente des publics.
Donc oui, il y a un réel impact. Enfin, les actions que vous mettez en place sont vraiment valorisées. Et est-ce que les habitants du quartier se retrouvent dans cette association ?
Alors, il faut se dire que l'association est une association des parents. Ouais. Et des habitants, c'est-à-dire que l'association leur appartient. Quand ils viennent à l'association, si, j'en sais pas, moi je vais raconter une bêtise, mais si le meuble qui est placé là, il leur plaît pas, ils veulent le déplacer, ils le déplacent. Mmh. Ils vont se faire un café eux-mêmes, ils préparent... on a un espèce de café des parents tous les matins, quasiment, parce que là, quand il va faire froid, vous allez voir, elles viennent tous les matins, les mamans, quelques papas, ils se font un café eux-mêmes. Voilà, on est une association qui œuvre pas pour les parents, mais qui œuvre avec les parents. Et c'est notre force, parce qu'on ne fait aucune action sans le faire avec eux, et en partant aussi de ce qu'ils ont envie de voir aborder. Là, on met en place des cafés des parents, des groupes d'échange. Mais à chaque fois, les thématiques, vous verrez dans notre programme, elles n'y sont pas. Mmh. Elles n'y sont pas parce qu'en fait, on part, on va proposer aux parents, on va leur dire, bon voilà, il y a un groupe d'échange le mois prochain, vous voulez qu'on voit aborder quoi ? Mmh. Et du coup, en partant de là, ben, ils sont très, très impliqués et ça marche. Et nous, on va aller chercher des intervenants, des partenaires qui vont venir pour répondre à leurs questions. Mais notre devise, elle est là.
D'ailleurs, en parlant de partenaires, quels sont vos partenaires ?
Alors, des partenaires. On a des partenaires
grosso modo.
Institutionnels, on a des partenaires associatifs et on a des partenaires plus privés. Institutionnellement, on est une association loi 1901, donc qui est financée par les financements publics, hein, donc le conseil régional, le conseil départemental, la ville de Toulouse, la CAF, l'État. Ça c'est nos principaux financeurs, et puis après on a aussi des partenaires privés. Là par exemple, pour la remise des prix, on a des partenaires comme BNP Paribas, Enedis, Tisséo, la Cité de l'Espace, et j'en passe, hein, beaucoup de partenaires qui viennent et puis qui vont être sur des actions comme la remise des prix où on va valoriser les enfants. Et puis on a des partenaires comme ici cette radio qui a la gentillesse de nous accueillir, Esprit Occitanie, qui donne la parole aux associations qui se sentent vraiment isolées et qui sont dans l'autre rive, hein, comme vous l'avez
gauche,
dit là.
Voilà.
Voilà, donc oui, c'est exactement ça. On a l'impression d'être... qu'on n'est pas vraiment Toulousain, puisqu'on est de l'autre côté, et puis que les gens ne viennent pas spécialement sur nos territoires. Donc, et notamment les médias. Donc quand une radio comme Esprit Occitanie nous propose une telle action, bien sûr que c'est un très bon partenaire.
Très bien, mais nous vous remercions aussi d'avoir accepté de participer à cette émission. Les valeurs de l'association, vous en parlez tout à l'heure, quelles sont-elles les valeurs que...
Les valeurs, oui, enfin, je ne vais pas tout décrire parce qu'elles sont nombreuses, hein, mais je ne sais pas ce que tu appelles les valeurs, ce que vous appelez les valeurs, mais oui, on travaille beaucoup sur la lutte contre l'échec scolaire, premièrement.
On y reviendra tout à l'heure.
Ouais, lutter contre l'échec scolaire, c'est notre... On est une association de parents d'élèves, hein, avant tout. Hein. On va aussi œuvrer pour l'égalité homme-femme, parce que c'est important. Et puis, on a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de femmes qui se sentent lésées un petit peu sur leurs droits. Les valeurs, ça va être la laïcité, la tolérance, la citoyenneté, la solidarité, l'égalité des chances, parce que là, ça a vraiment du sens en fait, hein, sur ces territoires.
Et quelles sont donc vos motivations au quotidien pour travailler dans ce genre d'association et aussi dans cet environnement-là, même si vous y venez aussi, vous Soraya qui venez de Cugno, quelles sont vos motivations à venir travailler dans ce milieu qui n'est pas facile.
En ce qui me concerne, c'est déjà l'amour de l'autre, parce qu'on a vraiment envie et besoin d'aider ces personnes, parce qu'elles sont certaines en détresse. Il ne faut pas oublier qu'il y a des fractures familiales, sociales, l'environnement. Il faut prendre tout en considération, on ne règle pas un problème comme ça. On est obligé de prendre la personne dans sa globalité et d'aborder avec elle, avec les codes, la problématique, et essayer d'avancer, d'évoluer avec eux au fur et à mesure. et elles nous font confiance, c'est ça qui est important. Et je peux dire qu'on a un esprit de famille au sein de cette association. Déjà avec toutes les personnes qui travaillent, service civique, la direction, les stagiaires, il y a des liens qui se tissent assez profonds. Et avec toutes les mamans qui viennent le matin, comme dit Malika, elles viennent le matin, on prend un café, une petite madeleine. Certaines ont eu leur bébé, ben elles passent nous faire un petit coucou, nous montrer le petit bébé qui a une semaine, 10 jours. Je trouve ça merveilleux parce qu'il y a ce contact qui est là. Et c'est très chaleureux. Et puis, on a vraiment, vraiment envie de les aider à accepter les choses, à s'intégrer et à s'en sortir les uns comme les autres, quoi.
Et revenons plus en détail sur votre rôle. Vous expliquiez tout à l'heure que vous étiez médiatrice sociale. Quel est le rôle d'une médiatrice sociale?
Alors justement, être médiatrice sociale, c'est pouvoir faire le lien. Nous, c'est la parentalité, donc c'est entre les parents et les institutions, donc les écoles. Toutes les problématiques, lorsqu'il y a un décrochage, donc Malika en a parlé, scolaire, c'est important de pouvoir accompagner. Les parents sont très souvent désemparés. Ils ont un sentiment d'abandon, ils ne comprennent pas la situation. Donc nous sommes là pour prendre... Déjà, on a du recul, on prend la situation en main et on intervient par rapport aux enseignants ou au lycée ou au collège. On intervient et puis d'un point de vue social, ça englobe aussi tout ce qui est problème de logement. Ils ont des problèmes administratifs, on les aide, on les accompagne parce que l'administration est très lourde. Les papiers sont trop compliqués. Et donc, on les aide, on les décharge à ce niveau-là, on les oriente. Et comme dirait le vice-président Manuel, nous sommes un peu des aiguilleurs. Mmh. On les oriente, on les accueille, on les oriente et on va avec eux, on les suit au fur et à mesure.
Et on a juste la chance de parler plusieurs langues, parce que c'est quand même des quartiers où il y a 37 nationalités, c'est beaucoup, et on peut pas aider des personnes, et notamment celles qui sont en détresse, quand on n'arrive pas à leur communiquer les informations, et notamment dans leur langue. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a, puisqu'on parle toutes les deux, quatre langues, et du coup, c'est un énorme avantage. Et quand les parents sont un petit peu désœuvrés, et puis qu'ils ne comprennent pas très bien ce qu'on leur demande, parce que l'institution scolaire, déjà, c'est un gouffre. Hein. C'est même nous qui sommes issus un peu de ce milieu-là, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Alors pour un parent lambda, ce n'est pas évident. Et ça, c'est un petit peu notre force aussi, de pouvoir parler plusieurs langues et de pouvoir un petit peu de les comprendre déjà.
Et en quoi c'est important d'avoir une médiatrice sociale au sein de l'association et qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Parce qu'il n'y en a pas dans chaque... je ne pense pas qu'il y a dans chaque association, il y a un médiateur social.
Alors, nous, déjà, on est une association de parents d'élèves. Donc, notre cœur de métier, c'est la médiation sociale et scolaire. Donc, on est sur de l'accueil du public. Et d'ailleurs, on est repéré sur le territoire comme étant l'association qui repère le public. Parce que c'est nous qui recevons le plus de public sur ces territoires. D'ailleurs, les institutions nous envoient énormément de monde. Hein, quand il y a une recherche à faire, quand il y a un étudiant qui fait un doctorat, hein, à chaque fois, ils nous les envoient parce qu'effectivement, on est repéré en tant que tel. La médiation sociale, c'est important dans ces territoires parce que ces publics, ils ont besoin d'un lieu de parole. Ils ont besoin de pouvoir avoir un lieu où ils sont en confiance, où ils peuvent poser des questions. Et puis, comme disait ma collègue, nous, on sait faire, on sait prendre l'individu dans sa globalité. Et ça, c'est important.
Très bien, on va faire une petite pause musicale. Tout à l'heure, Soraya nous parlait d'amour. Et je vous propose d'écouter Slimane, Viens on s'aime sur Esprit Occitanie.
Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. On s'en fout de leurs mots, de la pire séance. Viens, on s'aime. On s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime. On est fous. Encore un jour, encore. Oh, 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 oh
pas belle. Priez pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Et après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens on s'aime. Viens on s'aime. Allez viens.
Dans mon beau quartier, l'émission en partenariat avec l'association L'École et Nous, toujours avec Benjamin Lecousin, donc moi-même l'animateur. C'était Slimane à l'instant, Viens on s'aime. Donc on est en train de parler un petit peu de l'association, enfin pas un petit peu, même complètement de l'association L'École et Nous. J'ai donc une question. Pourquoi donc cette association s'est implantée dans ce territoire? Pourquoi Bellefontaine? Parce que c'est vous qui était du quartier et vous avez dit on fait une association ici ou parce que la présidente a dit on va la créer ici?
Elle s'est créée là parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait un besoin. Et nous, en tant que parents d'élèves, hein, très investis dans les établissements scolaires de nos enfants, on n'était pas soutenus par des associations, ça n'existait pas. Donc on œuvrait nous-mêmes en tant que parents bénévoles. Et puis on s'est, pour être entendus, pour pouvoir avoir un peu une force, on avait décidé de se créer en association. Et ça ne pouvait pas être créé ailleurs que là, puisque c'était pour des parents d'élèves du territoire.
Donc c'était qu'il y avait vraiment une demande de ce public-là qui recherchait... D'accord, très bien. Quelles sont donc les actions que vous menez tout au long de l'année avec les parents? Tout à l'heure, vous parliez d'un café des parents. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont menées?
Ah oui, alors on est une petite association, mais on mène beaucoup d'actions en fait. Ouais. Alors, je vous invite à venir voir notre site internet parce que du coup, là, vous allez voir un petit peu.
Le site internet, c'est.
Alors, le site internet alors, de
attendez,
l'association.
Je l'ai là. C'est www.écoleetnoustoutattaché.wixsite.com. / école-et-nous, mais je pense qu'on le mettra sur le site internet de la radio Esprit Occitanie pour que vous puissiez aller faire un tour et voir un peu. Mais donc, revenons à vos actions.
Alors, notre cœur de métier, c'est les parents d'élèves. Donc déjà, on est investi, nous, dans 12 établissements scolaires.
D'accord.
C'est beaucoup, mais notre cœur de métier, c'est d'aller former, aller chercher des parents pour qu'ils soient impliqués dans la vie scolaire et extrascolaire de leurs enfants. Donc les élections de parents d'élèves qui se sont déroulées le 11 octobre dernier, nous avions des parents dans tous les établissements. Alors, on a une particularité, c'est qu'on ne fait pas de liste l'école et nous, sauf au collège parce qu'on y est obligé. Mais dans les écoles, on a toujours œuvré pour que les parents soient acteurs. Et on n'a jamais souhaité que ce soit l'école et nous qui soit mis en avant. Donc c'est bien les parents. Après, nous, on est là. Hein. On les forme, on répond à leurs questions. Quand ils ont des projets, on va être là pour les soutenir dans leurs projets. Mais c'est une particularité qui est un peu spécifique à l'école et nous. Après, oui, effectivement, on met en place des conférences, on met en place des cafés des parents, des groupes d'échange, des manifestations culturelles aussi, parce que c'est aussi le fait de valoriser l'aspect culturel. C'est une richesse d'avoir 37 nationalités dans un territoire comme le nôtre. Donc, on va mettre des actions, notamment aujourd'hui dans l'ère de la dématérialisation. On a des ordinateurs qui ont été offerts par différentes institutions et on œuvre à pousser les habitants à utiliser l'outil. Parce qu'aujourd'hui, le moindre rendez-vous, il faut avoir savoir utiliser l'outil informatique.
Du coup, vous créez des ateliers informatiques pour les parents. Comment ça se passe ?
Alors, on a des ateliers informatiques tous les matins. Ouais. Les parents viennent, notamment sur le Pronote
c'est
et l'ENT.
C'est acté ou c'est pas quand ils veulent ? Par exemple, tous les matins, vous dites de 10h à 11h, on vient faire ça, ou c'est quand ils veulent ?
C'est ouvert. Ouais, c'est libre. Nous avons une jeune en service civique qui est là et qui est à disposition des habitants et des parents et des jeunes. Ouais. Parce que même s'ils ont envie de venir faire des recherches pour un stage, pour faire un CV. Ouais. Alors, à l'origine, ces ateliers informatiques, c'était pour que les parents adoptent l'ENT. C'est un outil qui est donné aux parents avec un identifiant et un mot de passe. Et ça leur permet de voir la scolarité de leurs enfants, les notes,
ah ouais,
etc.
Ah, d'accord, ouais.
Sauf que c'est un outil qui est extrêmement
récent,
intéressant.
Ça.
Non, ça existe depuis longtemps. Sauf que dans nos territoires, le problème, c'est que les parents ne savent pas s'en saisir parce qu'il faut savoir utiliser l'outil et puis il faut le comprendre derrière. Donc, et puis c'est quelque chose qui est extraordinaire, le Pronote et l'ENT. Parce que quand vous l'avez, vous pouvez voir si votre enfant, dès le mois d'octobre, il a des difficultés en maths, par exemple. Ouais. Et là, du coup, nous, de suite, on va pouvoir rebondir. Et on a des partenaires qui sont des associations d'accompagnement à la scolarité sur le territoire. On va de suite aller voir nos partenaires en disant « Cet enfant, il a déjà des difficultés en maths. Il faut prévenir. Ouais. » Et ça, si on ne sait pas l'utiliser, en fin d'année, c'est trop tard. Et donc, du coup, cet outil, les ateliers informatiques, on s'est rendu compte qu'on a des parents d'élèves, nous, sur notre territoire, mais je pense que ça doit exister partout, qui ne savent même pas utiliser une souris. C'est terrible. Aujourd'hui, pour un rendez-vous médical, il vous faut le prendre par ordinateur. Et donc, on a eu l'idée d'utiliser un petit peu le rapport culturel. Et on a un groupe de mamans, elles étaient 9, qui font des recettes absolument extraordinaires. Et donc, on leur a proposé d'écrire des recettes.
D'accord.
Des recettes, aller chercher des photos de leur... Et du coup, elles ont créé un livre de recettes que nous avons valorisé en mettant en place une séance de dédicace avec des élus.
Et du coup, il y a eu un livre qui est sorti. On peut l'acheter.
Il est disponible à l'école et nous. Il est à 4€. C'est le prix de l'édition, en fait. Il n'y a pas de bénéfice dessus. Et c'est un livre où il y a une trentaine de recettes. Mmh. Et là, aujourd'hui, elles se sont prises au jeu. Et donc, d'autres mamans sont en train de faire le tome 2.
D'accord.
Le livre s'appelle le livre de recettes des mamans de Bellefontaine.
D'accord, très bien. Belle initiative de votre part de pouvoir faire ça. Et du coup, ça leur permet de manier l'outil informatique et en même temps...
C'est-à-dire que pour nous, ça nous décharge beaucoup parce que maintenant, elles savent aller sur l'ENT puisqu'elles savent utiliser l'outil. Mais en plus, elles savent mettre à jour, retirer une attestation CAF, se mettre à jour pour le Pôle emploi, faire des recherches d'emploi. Ces mamans, elles deviennent autonomes. Et du coup, pour nous, c'est quand même une belle fierté, quoi, ce petit livre. D'ailleurs, on en offrira un à Esprit Occitanie.
Voilà.
Pour essayer les recettes. elles sont dédicacées parce que les mamans ont dédicacé les livres.
Donc, tout à l'heure, vous parlez de décrochage scolaire. Décrochage scolaire, on sait qu'il est assez présent, malheureusement, dans ce quartier. Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre, justement, pour lutter contre le décrochage scolaire?
Alors, on a effectivement des enfants en difficulté, je pense comme partout, tout en France, peut-être un petit peu plus sur ces territoires parce que on a des familles qui sont extrêmement en grande difficulté. Et notamment, on a près d'un tiers de la population des gens qu'on touche qui sont des familles monoparentales.
D'accord.
Donc déjà, en difficulté sociale, financière aussi, entre autres. Et donc, le décrochage scolaire, effectivement, l'ENT nous permet de repérer des enfants qui sont en difficulté. de pouvoir faire l'accompagnement. Alors, on a deux axes. Le premier, c'est les associations à l'accompagnement à la scolarité qui sont nos partenaires. Et donc, on va essayer de faire aider ces enfants, notamment avec la FEV, qui est notre voisin très proche, où des étudiants peuvent accompagner individuellement des enfants en difficulté. Donc ça, c'est un des moyens. Et puis, on fait partie aussi d'un dispositif de la mairie de Toulouse qui s'appelle la réussite éducative. Alors, c'est un dispositif qui nous permet, nous, de faire du repérage d'enfants en difficulté. Et puis après, c'est une cellule dans laquelle il y a des psychologues, des éducateurs. Alors, le gros avantage, c'est que c'est gratuit pour les familles. Et ça, quand vous êtes en difficulté financière, c'est pas rien. Et donc, voilà, c'est un des deuxièmes axes. Après, c'est de l'accompagnement, de l'écoute, du suivi. Voilà, on va essayer d'aider. Après, c'est du cas par cas.
Ouais. Avant de préparer donc, l'émission, vous m'avez envoyé une plaquette qui parlait du grand débat national, ce qui était ressorti. Et je suis tombé sur une maman qui disait que... Mais les jeunes ne se sentaient pas intégrés à la société et qui préféraient l'argent facile du business que d'aller à l'école. Est-ce que l'association lutte pour sortir un peu les jeunes de ce genre de trafic ? Puisque là, vous parlez de décrochage scolaire par rapport à l'école, mais par rapport aussi au côté un peu moins attrayant du quartier, avec l'influence de certaines personnes qui peuvent prendre le dessus sur des jeunes assez faibles, faibles dans leur tête.
Fragile,
voilà, vous avez les mots. Et du coup, est-ce que l'association essaie de lutter pour ça, avec les parents ?
Le mot, c'est essayer.
Ouais.
Parce qu'un enfant ou un jeune, quand il est complètement décroché et qu'il a été récupéré, et qu'il se retrouve dans ce milieu-là, c'est très difficile. Très difficile de l'en sortir. Et donc, on va essayer. Hein, on va essayer de discuter avec eux. On va essayer de leur montrer qu'il y a d'autres alternatives. Mais c'est très compliqué. Mmh. Quand vous avez un enfant qui décroche et qui se met dans cette situation-là, et que nous, on essaie de discuter avec lui, il va vous dire, oui, mais moi, vous voyez, 50 euros par jour, rien que pour surveiller des voitures. Voilà, moi, ma mère, elle fait 2 heures de ménage. Ça peut que l'aider. Donc, la difficulté financière des familles... bien sûr que ces enfants décrochent plus facilement. Nous, on essaie, mais j'avoue que c'est très, très, très difficile.
Soria, vous expliquiez tout à l'heure que vous étiez la trésorière de l'association. Est-ce que ce rôle, c'est juste trésorière ou vous faites un peu plus ? Parce que je sais que vous habitez le quartier et que vous êtes présente sur la vie associative.
Je suis la trésorière de l'école et nous. Bon, après, je suis bénévole dans plusieurs structures, mais notamment au tennis club de Bellefontaine où je suis la présidente du club. Et nous sommes en partenariat sur beaucoup de projets avec l'association L'école et nous.
Et donc voilà, donc je vais revenir, vous faites partie du tennis club de Bellefontaine et donc vous expliquez qu'il y a des actions qui sont menées avec l'école et nous.
En partenariat avec l'école et nous.
Et du coup, vous utilisez le sport pour justement amener les enfants à...
Oui, ouais. Exactement.
Vu que vous êtes du quartier, quels sont les grands changements que vous avez connus depuis votre arrivée au quartier ?
Alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce quartier, ma fille ayant 20 ans. Voilà. Alors j'ai connu la destruction de la grande dalle qui était au niveau du Grand Tintoret, qui faisait de la place de Bellefontaine, c'est-à-dire le métro, jusqu'au bout du Tintoret. Cette place qui a été détruite et qui reste juste une partie, en fait, une petite partie qu'ils ont gardée. Où est l'école et nous, justement, d'ailleurs. Voilà. Et j'ai connu beaucoup d'immeubles qui sont tombés, notamment le mien, Camus, une partie de Camus qui est tombée où j'étais moi. Voilà. Beaucoup de changements. Je ne trouve pas, au niveau de la verdure, qu'il y a eu beaucoup de changements, parce que je trouve qu'il en manque un peu beaucoup. Voilà. Avec tous les nouveaux immeubles qu'ils nous ont mis. Voilà, au milieu, là, à côté d'Albanville. Les parkings, oui, notamment, qui sont en destruction aussi. Ils ont beaucoup... voilà.
Et comparé à quand vous êtes arrivé, vous préférez le quartier maintenant ou justement quand vous êtes arrivé ?
Non, je préférais le quartier où j'étais parce que même le petit bois qu'on appelait le petit bois, où il y avait une petite fontaine qui était encore en mise en marche quand j'y suis arrivée, moi, je trouvais ça dommage de... Voilà, parce que là, il ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Ils ont fait beaucoup de verdure autour, mais ce qui n'empêche pas ces immeubles qui sont sur les côtés, là, on va mettre moins d'immeubles plus bas. En fait, il y a plus d'immeubles plus bas que les grands qu'il y avait. Voilà.
L'émission touche bientôt à sa fin. Est-ce que vous pensez que donc, le fait d'avoir une émission récurrente de radio pour donner la parole à ces habitants qui ne pensent qui ne l'ont pas, est-ce que vous pensez que ça va être bénéfique, pas seulement aux habitants, mais au quartier et à l'image que peut avoir Bellefontaine ?
Bien sûr que ça va être bénéfique. Et puis, de valoriser des actions. Par exemple, nous, on essaie d'accompagner les parents au maximum dans l'insertion professionnelle, puisqu'on sait pertinemment que c'est en ayant un emploi qu'on a de la dignité aussi, hein, parce que donner de la dignité humaine aux gens, ce n'est pas évident. Et là, par exemple, on a une action qui est importante et on forme les gens au PSC1, donc au premier secours, non seulement pour eux, parce que, vous savez, dans les quartiers comme le Mirail, les pompiers arrivent très vite, hein, mais ils ne peuvent pas intervenir tant qu'il n'y a pas une voiture de police pour sécuriser. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc, du coup, il y a une animosité qui se crée parce que ben, vous avez une voiture qui est en feu, mais vous avez aussi quelqu'un qui a un arrêt cardiaque qui est tombé par terre et les pompiers ne peuvent pas intervenir. Donc, du coup, pour donner les premiers secours, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, avec la protection civile de l'Ariège, hein, qui sont des bénévoles, qui viennent de l'Ariège, qui viennent à Bellefontaine et qui dispensent une formation tous les mois à raison seulement de 10 euros. Ils ne font payer que les diplômes parce qu'ils sont bénévoles. Et du coup, à ce jour, en un an et demi, grâce à ces bénévoles de la protection civile de l'Ariège, ça prouve qu'on a des gens bien partout aussi, hein, et qui s'inquiètent aussi des gens des quartiers. Ça, c'est important. On a formé déjà 94 personnes.
Ah oui. Et il y a d'autres actions à venir ou d'autres événements autres que le PSC1 qui vont se passer qui vont se passer prochainement avec vous, même avec en partenariat avec peut-être le Clénis Club de Bellefontaine et l'école et nous.
La prochaine action, c'est le 12 novembre prochain, on fait une remise des prix.
D'accord.
Parce qu'il est important aussi de se dire que dans des territoires comme les nôtres, on parle beaucoup de choses négatives, mais en fait, on a aussi des jeunes qui réussissent très bien. Pas dans les conditions optimum, c'est vrai. Parce que c'est pas facile hein, de vivre dans ce quartier, c'est vrai. C'est un quartier qui est très agréable, hein, où il y a vraiment tout. Mais bon, il y a aussi beaucoup de difficultés à côté. Et on a des enfants qui réussissent très bien, sauf que personne n'en parle. Ces enfants qui ont des brevets avec mention très bien. Et ça, c'est quand même extraordinaire hein, d'avoir le mention très bien. Et donc, on va valoriser le 12 novembre prochain 43 élèves qui sont aujourd'hui lycéens, qui ont tous eu le brevet avec des mentions. Et là, on invite tous les partenaires institutionnels, nos partenaires privés, qui vont venir, le directeur académique, le nouveau directeur académique, qui aussi vient féliciter les enfants. Et puis, on leur offre des petits cadeaux, il y aura un petit buffet. Et d'ailleurs, Esprit Occitanie sera présent. Et ça, ça nous fait plaisir parce que on invite les médias à chacune des remises des prix tous les ans.
Nous serons là avec grand plaisir.
Vous nous l'avez confirmé et on en est ravis. Il arrive que les médias viennent, mais souvent, ce n'est pas très intéressant de valoriser des enfants d'un quartier. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus intéressantes, donc on se retrouve sans médias. Mais là, on est ravis de vous avoir, en tout cas.
Eh bien, merci à vous de cette invitation. Dernière question, est-ce qu'il y a des actions qui vous tiennent à cœur et que vous avez pas encore, qui n'ont pas encore été mis en place par peut-être faute de moyens, faute de temps, faute de moyens humains.
Bien sûr, vous savez, les demandes des parents, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on commence par la demande des parents. Nous, il y a une action qu'on aimerait bien mener, et c'est de sortir les familles du quartier, parce que ces quartiers sont devenus un petit peu des ghettos. Hein, moi, excusez-moi, j'utilise les mots un peu crus, mais c'est un petit peu ça. Mais c'est comme s'il y avait une espèce de barrière invisible. Et les gens ont tout sur le quartier. Donc, ils n'ont pas envie d'en sortir, en fait. Hein. Moi, quand je trouve un stage à un gamin sur Balma, pour lui, c'est comme si je lui disais, il va falloir que tu prennes le Concorde. Quoi. Ouais. C'est hallucinant. Et je vais passer une heure à le persuader que Balma, c'est Toulouse. Quoi. Mais on a tellement fait en sorte qu'il y ait tout sur le territoire, les gens ne sortent pas du quartier. Et donc, il est important, quand on a les moyens de le faire, et ça, on n'en a pas beaucoup, de pouvoir sortir les familles du quartier. Notamment par exemple pour faire un week-end famille parfois on réussit à obtenir des petits financements pour pouvoir sortir les familles et les amener à la montagne par exemple un week-end, mais ça coûte un bras, donc c'est très difficile, mais si vous saviez le bénéfice qu'on en retire, c'est extraordinaire. La relation parent-enfant est différente, les gens oublient leurs soucis, ils sortent du quartier, ils voient autre chose. Et ça, c'est des actions comme ça, si on pouvait en faire un petit peu plus, parce qu'on a une vraie demande là-dessus, ce serait pas mal. Mais ça demande, rien que le transport, ça coûte très cher.
Eh bien, merci à vous trois d'avoir répondu à nos questions. C'était donc l'association L'École et nous avec Malika Badou, de la directrice, Soria, j'ai plus le nom de famille, Kourich, et Soraya Amalou, qui est la médiatrice sociale. Merci à vous trois. Prochaine émission, ça sera fin novembre, avec cette fois-ci les adhérents. Avec certains adhérents de l'association L'École et nous qui viendront nous parler de leur quotidien, de débattre sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et surtout, on leur donnera la parole, chose qu'ils n'ont pas souvent l'occasion d'avoir. Merci à vous trois d'être venus.
Merci.
Et pour cette émission, on va remercier Jacques Lavergne de nous avoir donné la parole, qui est le président de Esprit Occitanie. Aussi Thierry Aguilot, le directeur d'antenne. Et Hugo, qui m'a accompagné tout au long de cette émission pour la technique. Je vous rappelle, prochain rendez-vous fin novembre. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao.